les années 60.
Salut les copains.
Sur RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, selon le ministère de l'Intérieur, 84 000 personnes ont défilé hier lors de l'acte 9 des Gilets jaunes. À 3 jours du débat national censé apaiser la colère, la mobilisation des Gilets jaunes est en hausse. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 50 000 personnes, même si quelques violences ont été à déplorer dans plusieurs villes comme Bourges, Paris ou encore Bordeaux. Celles-ci ont été moins nombreuses. 244 personnes ont été interpellées et 201 placées. C'est garde à vue. À Paris, lourd bilan suite à l'explosion d'un immeuble rue de Trévise dans le 9e arrondissement. 3 morts, 2 pompiers et une touriste espagnole et une cinquantaine de blessés, dont une dizaine grièvement, sont à déplorer. Cette explosion s'est produite hier dans un immeuble où des pompiers intervenaient pour une fuite de gaz. Donald Trump s'en est pris violemment hier à l'ancien directeur du FBI, James Comey. Le New York Times a mis à jour de nouvelles révélations sur l'ouverture en 2017 d'une enquête fédérale pour déterminer si Donald Trump travaillait pour la Russie. Furieux, le président américain a qualifié l'ancien directeur du FBI de menteur, vraie ordure et flic véreux. Selon le New York Times, l'enquête de la police fédérale américaine a été rapidement fusionnée avec celle ouverte des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du président américain lors de la campagne présidentielle de 2016. Raaf Mohamed Kounoun est arrivé au Canada. La jeune Saoudienne, qui a fui sa famille et son pays, a été accueillie par la ministre des Affaires étrangères canadienne à l'aéroport de Toronto, ville du sud-est canadien où elle vit désormais. Enfin, en sport, le PSG s'est relancé hier lors de la 20e journée de Ligue 1. 3 jours après sa défaite face à Guingamp, le club de la capitale a battu Amiens 3 buts à 0. Il compte désormais 13 points d'avance sur son dauphin lillois.
R2037, il est 10h passé de 2 minutes. La météo de ce jour, c'est un ciel qui restera nuageux et pluvieux cet après-midi avec des rafales de vent à plus de 45 km/h, température 9 à 10 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver hein, ce dimanche 13 janvier. Alors, on s'était quitté il y a quelques semaines sur la grosse rétro de l'année 2018. On a pris quelques vacances. On est revenu la semaine dernière avec Tribune Foot. Et bien, ce matin, pour cette rentrée du mois de janvier de Tribune Sport, on accueille la section escrime de Rambouillet, amenée par Christophe Bell, son président. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et d'abord, bonne année.
Bonne année, effectivement, oui. C'est encore la période des vœux. Bonne année.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année 2019 en matière de sport sur Rambouillet, et puis pour l'escrime aussi d'une façon plus globale.
Pour l'escrime, nos souhaits, c'est de continuer à se développer puisqu'on fête cette année là, notre dixième saison. Mm-hmm. C'est un petit peu notre anniversaire.
Ah ça tombe bien.
Ouais, c'est un beau petit clin d'œil. Et puis du coup, on continue à se développer puisqu'on on a la chance maintenant d'avoir 143 licenciés.
Ah ouais.
Donc en 10 ans, on est très content et on espère progresser encore dans les années qui viennent.
Alors vous êtes la dernière section née sur Rambouillet. Hein. Il y a eu la boxe française, je crois, en 2004 et vous, c'est arrivé de 2008.
Oui, voilà, c'est ça, de septembre 2008. Donc on a créé, on a rencontré monsieur le maire de l'époque et les personnes de la mairie. Et puis je crois qu'effectivement, on a été la dernière section sportive à pouvoir s'installer sur Rambouillet.
Alors c'est arrivé comment ? Cette section escrime, vous êtes venu vous installer sur Rambouillet, c'est votre sport, donc vous avez dit allez, on va monter une section escrime.
Effectivement, moi j'ai été en équipe de France d'escrime il y a le siècle dernier maintenant, ça fait loin. Et puis j'ai la chance d'avoir épousé également une escrimeuse, donc on habitait à Paris, et puis lorsqu'on s'est installé sur Rambouillet en 2007, bien évidemment on a voulu créer un club, puisqu'il n'y avait pas d'escrime sur Rambouillet. Et puis rapidement, on a créé un club donc en septembre 2008. Et puis tout est parti relativement rapidement. Et puis maintenant, on est à 143 licenciés.
Bon, ça a été facile de monter ce club parce que on sait que l'escrime, il y a quand même c'est une salle particulière. pour pratiquer ce sport. C'est peut-être pas toujours facile, et puis, évident.
Alors, non, parce que ça nécessite un petit peu de matériel pour avoir des pistes d'escrime, tout ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que la natation avec un maillot de bain uniquement, quoi. Mais bon, on avait quand même, nous, l'expertise en étant ancien athlète de haut niveau et puis maître d'armes, donc on savait comment réaliser un club. Donc ça, cette partie-là, elle était relativement facile. Maintenant, après, c'est les créneaux, puisque, bah, comme vous le disiez justement, on était la dernière section à s'implanter sur Rambouillet. Donc, effectivement, les gymnases, tout ça, était bien, bien occupé. Donc, on va de gymnase en gymnase, mais on arrive quand même à pouvoir dispenser une vingtaine d'heures de cours par semaine.
Vous êtes sous l'égide de Rambouillet Sport ou vous êtes
pas du tout, on est complètement indépendant. Donc, c'est le cercle d'escrime de Rambouillet, indépendant. Et
c'est un choix volontaire ?
C'est un choix volontaire, oui. Je préfère dépendre de moi-même plutôt que d'autres personnes. Et puis voilà, ça fonctionne bien comme ça.
Alors on va parler naturellement plus en détail de ce sport. C'est vrai dont on ne parle pas trop souvent sur les médias, sauf chez nous. Hein. Et puis on n'en parle que tous les 4 ans quand la France rapporte beaucoup de médailles.
Bah, c'est toujours le premier sport olympique en termes de pourvoyeur de médailles, donc c'est important. On a eu, on en a parlé aussi quand même beaucoup avec Laura Flessel qui a été ministre des Sports là pendant plus de 2 ans.
Alors Christophe, je vous coupe. C'est vrai que ça mène au poste de ministre d'escrime. On a eu Jean-François Lamour, on a eu Laura Flessel.
Exactement, on a quand même beaucoup de. Ça peut être un chemin rapide. Ouais. Je ne sais pas, mais effectivement, voilà, on parle d'escrime effectivement tous les 4 ans à l'occasion des Jeux. On a 2020 là qui va arriver. Ce week-end, on a une Coupe du Monde à Paris à Coubertin. Oui. Donc bah, j'invite tout le monde à aller au stade cet après-midi voir l'équipe de France. Il y aura l'épreuve par équipe. Mais voilà, ça reste le sport numéro un français en termes de pourvoyeur de médailles.
Oui, alors vous restez très actif dans le domaine de l'escrime. Hein. Vous êtes un sportif de haut niveau, mais bon, vous êtes régulièrement présent sur toutes les grandes manifestations en Ile-de-France et même en France.
Oui, on participe aux compétitions avec les jeunes du club, sur le départementaux. Aujourd'hui, on emmène des jeunes à un challenge à Trappes. Mm-hmm. Et puis, nous, on organise également notre tournoi depuis 3 ans. On a voulu un petit peu se diversifier. On organise un tournoi à Rambouillet, les filles lames de Rambouillet au mois de décembre.
Début décembre, c'était,
Oui, chaque premier dimanche de décembre, donc depuis 3 ans, on a fêté la 3e édition cette année. Et ça regroupe plusieurs tireurs. On a eu cette année 7 clubs de représentés de la région Île-de-France.
Des tout jeunes, des tout petits, non ?
Alors, on a commencé par des adultes et les vétérans. C'était un public qui correspondait à une demande un petit peu également de nos jeunes adultes et vétérans du club. Donc, les 2 premières années, c'était uniquement réservé donc aux adultes. Et puis, cette année, on a créé une 2e compétition dans la journée, l'après-midi, pour les ados. Voilà, pour essayer un petit peu aussi de grandir de ce côté-là.
Alors, vous êtes dans le monde de l'escrime et puis vous travaillez dans le monde du foot. Comment se fait la passerelle ? Alors, c'est bon, hasard ou c'est parce que médiatiquement, c'est 2 sports complètement différents ?
Alors, c'est deux sports complètement différents. Bon, après, voilà, c'est le côté professionnel. Ce ne sont pas les mêmes mondes, un monde professionnel et un monde complètement amateur. Mais voilà, c'est
ça va, on s'y fait facilement.
Vous
êtes un passionné de foot aussi, non ?
Oui, j'ai passionné de sport en général, voilà, donc de foot, pas de foot spécifiquement, mais de sport en général.
Comme nous.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors justement, ça tombe très bien parce que on parle beaucoup de course à pied aussi à ce micro, et c'est normal. Hein, c'est un sport majeur dans notre région. On avait fini l'année 2018 avec la corrida de Rambouillet, disputée dans des conditions vraiment apocalyptiques au niveau de la météo. Et puis on a commencé l'année 2019 avec le marathon de Cernay-la-Ville, organisé dimanche dernier par l'association Altea & Co de Patrick Bonneau. Vous y avez participé, mais enfin sur les 10 km, c'est ça ?
Alors moi, non, sur le semi-marathon.
Oui, d'accord.
Voilà, en toute
c'était la première fois.
C'était la première fois, voilà. Mais voilà, une course vraiment très, très sympathique. J'ai vraiment adoré la courir. Voilà, une ambiance un peu familiale et puis un parcours très, très sympathique. Puis les conditions étaient excellentes la semaine dernière.
Donc vous allez remettre ça dans la région. Il y a Bullion, Rambouillet.
J'ai appris hier en discutant, alors par hasard, qu'il y avait effectivement Bullion le 10 février. J'étais pas au courant, mais je pense que je vais aller m'inscrire.
C'est une très
également.
Belle course, Et vous allez passer devant Clairefontaine justement.
Ah bah alors. Voilà,
vous montez la côte de la Villeneuve là, et puis vous arrivez, vous passez devant le centre et vous redescendez Montjoie pour aller après donc devant le château Ricard et puis donc sur Bullion. Donc vous serez
en plus pour
connaissance. Voilà. Et ben je vais justement, on va revenir sur ce semi-marathon et ces 10 km. Et vous allez voir, on va commencer en écoutant quelqu'un qu'on avait déjà interviewé l'année dernière. C'est un non-voyant et grâce à un GPS assisté d'une canne pour sonder les reliefs. Il a battu son record du monde. Écoutez, vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Allez, je suis avec Clément Gasse. Clément, bonjour. Merci bonjour. D'être sur cette épreuve de Sarnay-la-Ville. On s'était vu l'année dernière, vous aviez promis de revenir, vous êtes revenu, vous avez battu un record du monde.
Ben oui, j'ai tenu parole. En même temps, c'est à peu près le seul marathon qu'on trouve en France à cette période. Et c'est une période à laquelle j'aime bien courir sur route. L'été, je préfère la montagne, les trails. En hiver, quand les chemins sont en moins bon état, c'est là que je cherche les courses sur route. Et donc l'objectif, c'était de faire mieux que l'an dernier. Donc j'avais établi ici un record du monde en autonomie pour un non-voyant. Donc en autonomie, c'est-à-dire sans guide, avec simplement un GPS et une canne pour me guider. Et j'avais pas recouru d'autres marathons entre-temps. Personne d'autre ne s'est attaqué au record non plus. Donc en revenant ici, ça permettait de tenter le record exactement dans les mêmes conditions, avec le même parcours. Et là, je suis extrêmement content puisque je l'ai battu de 20 minutes.
C'est énorme,
ouais. J'y croyais pas moi-même quand j'ai entendu le temps à l'arrivée. J'ai eu un gros coup de mou vers le kilomètre 37. Je me suis bien ravitaillé. Et finalement, quand je suis reparti, je suis bien reparti, quoi. Ouais. Et les 5 derniers kilomètres, j'y ai pas cru, quoi. J'ai réussi à les faire quand même en 27 minutes. Je pensais plutôt arriver en 4h10, 4h15, mais finalement 4h04, c'est énorme. Je suis allé au bout de moi-même, je suis content.
Comment vous expliquez cet énorme bond en avant, cette énorme progression ?
Alors, sur toutes les courses que j'ai faites cette année et que j'avais déjà faites, j'ai battu mes meilleurs temps sur tous les trails. Pourtant, j'étais blessé une bonne partie de l'année. Donc, je pense pas que physiquement, j'étais meilleur. Mais par contre, j'ai encore perfectionné ma technique. Les réflexes sont toujours meilleurs. La concentration par rapport aux informations du GPS. L'analyse du terrain, la proprioception, donc la capacité à sentir les variations de terrain avec les muscles des jambes, la technique de canne et l'équipement aussi. L'an dernier, j'avais eu un peu froid. Cette année, j'ai pris vraiment des bons gants trois doigts, quoi, carrément des gants de ski pour éviter d'avoir froid. Puisqu'avec la main en avant pour tenir la canne, je suis très exposé au froid au niveau des mains.
D'accord. Donc, c'est le seul marathon auquel vous participez. Ça ne vous donne pas l'envie d'en faire d'autres ? Pourquoi pas le marathon de Paris ?
Si, je vais en faire d'autres cette année, parce que je vois que j'ai une bonne marge de progression encore. Bon, l'an dernier, j'avais plutôt des objectifs trail, mais cette année, je vais un peu davantage me concentrer sur les marathons. Le prochain, je pense, il sera en Allemagne. C'est pas loin de chez moi, puisque je suis alsacien. C'est le marathon du Binnenwald, il s'appelle. Donc c'est juste à la frontière, quoi, juste de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est le 10 mars. Normalement, ce sera celui-là, le prochain. C'est un parcours tout plat, donc ça devrait me permettre d'améliorer.
Alors, vous êtes novateur, hein, vous êtes non-voyant, vous avez un système qui vous permet de courir. Vous êtes novateur. Est-ce que ça peut inspirer d'autres sports et même certaines personnes dans la course à pied ?
Oui, il y a de plus en plus de non-voyants qui utilisent ce système pour randonner, même sur des très longues distances. J'ai un ami comme ça qui a fait 78 km en 24 heures en mode randonnée avec ce système. En course à pied, il n'y en a pas encore beaucoup qui osent s'y lancer, mais je forme des enfants. Donc je pense que mes successeurs pour les records, je les connais déjà. Cette année, ils ont couru leur premier trail au mois de septembre. C'est dans le sud, à Tourette-sur-Loup. C'est avec l'association Vue du Cœur. Donc, c'est des enfants alsaciens, il y en a 6, qu'on a emmenés à Tourette-sur-Loup sur un trail que j'avais déjà fait l'an dernier, où on a été très bien reçus. Et donc, c'est une très grande satisfaction de les voir progresser tout au long de l'année. On a fait des randonnées dans les Vosges et ils ont fini par réussir à courir un petit trail dans les 3 km avec 100 mètres de dénivelé pour commencer. Et il y en a qui ont du potentiel, j'ai bon espoir d'être battu d'ici quelques années.
Bon Clément, on vous revoit l'année prochaine, en 2020 ?
Ah ben, je pense que ce sera...
Pour rebattre un nouveau record du monde ?
Ouais. Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas, si la forme est présente, ce sera avec plaisir.
Voilà, impressionnant quand même, hein, Christophe, vous qui avez participé au semi, ce que vient de faire donc Clément Gasse dans ce marathon.
Ah non, c'est impressionnant, c'est beaucoup d'admiration pour cette personne. Non, c'est ouais.
Belle ça leçon. Pourrait s'appliquer à votre sport, le GPS pour les sprints éventuellement pour un non-voyant.
On est sur 14 mètres, donc non, ouais. ça serait pas la solution, mais il peut y avoir effectivement des choses à réfléchir, mais non, impressionnant, vraiment c'est. Et puis un temps assez exceptionnel.
4h04.
Hein. 4h04, et j'entends qu'il fait les 5 derniers kilomètres, les 5 derniers en 27 minutes, ce qui est. Mm-hmm. Non, c'est. Mm-hmm. Chapeau.
Et le pire, il l'a pulvérisé par rapport à l'année dernière, où il avait mis 20 minutes de plus. Hein.
Ouais, non, c'est. Mm-hmm. Une belle leçon pour tout le monde.
Très bien. Allez, on va écouter maintenant quelqu'un qu'on connaît bien sur notre antenne. Hein, il participe régulièrement à des raids vélo, mais aussi à des raids de course à pied. Eh bien, c'est Laurent Boudineau qui nous explique comment il a vécu, lui, son marathon 2019 sur Cernay-la-Ville. Allez, avec une voix bien connue sur notre antenne, Laurent Boudineau. Laurent, vous avez bouclé votre marathon de Cernay-la-Ville.
Je l'ai bouclé, effectivement. Bon, c'est un beau parcours. Hein. C'est la quatrième fois que je viens le faire. Ça fait un bon petit démarrage sympathique. On rencontre des gens qui sont sympas, comme sur tous les marathons ou sur toutes les courses. Et puis, ça remet les choses, les pendules à l'heure.
Ouais, alors, premier marathon de l'année, c'est le marathon des Yvelines. Quelques jours après les fêtes, Patrick Bonneau y tient. Hein. C'est une particularité. Hein.
C'est une particularité. Je pense même que non seulement c'est le premier des Yvelines, mais c'est le premier de France. Hein. C'est le premier de France. Et c'est Patrick qui tient et il a des bonnes idées, c'est vraiment sympa.
Bon, vous êtes content de votre course de ce jour ?
Très content. C'est même un petit peu rapide pour un début d'année, puisque je fais un petit peu moins de 4 heures. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai tenu mon allure pratiquement d'un bout à l'autre. Donc voilà, c'est un bon début. Après, bon, on fera d'autres courses, on fera d'autres choses.
Un marathon en plein hiver, quand même, c'est facile de garder l'entraînement, la motivation ?
Ah, la motivation, oui, sinon on ne vient pas, hein. c'est pas compliqué. Hein. La forme, eh ben, éventuellement, on le fait un petit peu moins rapidement. Hein. Et puis, bon, malgré tout, entre le réveillon et le nouvel an, il y a quand même un petit peu de temps qu'on peut faire une ou deux séances. Et puis, bon, je dirais, quand on a un petit peu l'habitude de faire ce genre de course, on a un fond qui est constant et on n'a pas forcément besoin de s'entraîner spécifiquement pour le faire. Hein, ouais. Voilà. Donc on peut se permettre quand même de profiter de Noël, de profiter de Nouvel An, de profiter de la famille et puis de profiter du marathon après.
Oui, avec peut-être un échauffement un peu particulier aussi en fonction de la météo. Là c'était convenable aujourd'hui.
Là c'était très convenable. Il faisait presque plus frais au retour que quand on est parti ce matin. Oui, ben, il faut démarrer doucement, il ne faut pas forcer, il faut gérer sa respiration encore un petit peu mieux que d'ordinaire. Et puis c'est tout. Quoi,
hein. Bon, vous avez emprunté un peu de route du prochain semi de Bullion. Hein.
Absolument, hein, ouais. Il y a des parties de parcours qui sont similaires à Bullion. Autre épreuve sympathique de la région qui fait partie des classiques de la remise en route de la saison.
Bon Laurent, c'est quoi les autres rendez-vous maintenant pour vous, la course à pied ? Dans la saison qui arrive, peut-être Bullion, le semi de Rambouillet aussi.
Alors peut-être Bullion, le semi de Rambouillet. Je sais pas si je suis là, mais donc ce sera autre chose. Après, je vais aller un petit peu en province, en Bretagne, faire un trail qui s'appelle le trail Glazig, qui est pas très très long, puisque c'est un 30 ou 35 km. Il y a du vallonnement, il y a beaucoup de boue, donc c'est un petit peu plus technique. Et puis dans un autre genre, un petit peu plus tard en saison, puisque ça va être sur juillet. Et août. D'une part, je vais faire, alors là, en changeant de discipline, à tandem, une cyclo-montagnarde. Donc ça, c'est un parcours de un petit peu plus de 200 km, 4 petites mètres de dénivelé qu'on fait sur deux jours. Et puis, une épreuve que j'ai fait il y a quelques années, on avait parlé un petit peu ensemble sur RVE, le Tour de l'Oisans, hein, qui est une course à étapes de 5 jours, 6 étapes. Hein. Donc là, je vais peut-être la refaire cette année. Et puis, on aura le temps de parler plein d'autres choses d'ici là. Hein.
Et puis vélo et course à pied, ça veut dire qu'il manque plus de natation que vous allez faire des triathlons.
Ouais, bon, entre le vélo, le tandem, le VTT, la course à pied, ça nous prend déjà pas mal de temps. Et puis honnêtement, piscine, je suis pas vraiment très très bon. Et puis bon, il faut aussi garder du temps pour RVE, pour les auditeurs, pour les consultations que je fais. Bon, alors, on se contente de VTT et et course à pied, et puis c'est déjà pas mal.
Merci Laurent.
À très bientôt.
Voilà, vous voyez, la radio, ça mène à tout. Allez, on va écouter maintenant donc, eh bien, monsieur le maire, René Mémin, qu'on a pratiquement toujours l'occasion d'interviewer donc, à l'occasion de ce marathon, et puis bah, qui nous présente un peu les principales festivités de, pour sa commune pour 2019. Allez, avec monsieur René Mémin, maire de Cernay-la-Ville, monsieur le maire, encore une année qui commence bien sur Cernay.
Voilà, bien écoutez, ça devient une tradition. Nous nous retrouvons effectivement maintenant le premier dimanche de janvier pour ce marathon. Cette année encore un grand succès. Je dirais que le nombre des coureurs augmente, hein, puisque nous sommes maintenant, nous accueillons 1200 participants de 11 pays, 5 continents. Enfin voilà, Cernay est un peu le centre du monde en ce début d'année.
Est-ce que c'est facile à mettre comme ça sur pied, surtout quelques jours après les fêtes?
Alors non, évidemment, ça devient, j'allais dire, presque trop important pour la taille de notre commune, parce que nous avons effectivement un petit service technique qui doit assurer aussi une partie de la logistique de cette manifestation. Mais je dois dire qu'avec Patrick Bonneau, qui lui est entouré à peu près d'une centaine de bénévoles, et qui maîtrise parfaitement l'organisation de sa course, tout cela est possible. Donc je pense que ça pourrait même peut-être grossir encore un petit peu.
Oui, avec une déviation qui fait qu'on passe quand même dans le centre-ville, donc les commerçants ne sont pas exclus.
Voilà, c'est ça, c'est important. Et vous voyez, là, on a presque doublé la population, donc je suis sûr qu'il y a aussi eu du retour vers les commerçants. Voilà.
Bon, l'année commence bien, bon, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, là, ensuite?
L'année commence bien, bah, écoutez, moi, je présenterai mes voeux la semaine prochaine à la population, c'est une tradition, bien sûr. Et puis, eh bien, on va enchaîner aussi, j'allais dire, les manifestations sportives ou culturelles tout au long de l'année. Voilà, donc encore une année 2019 qui sera aussi riche que la précédente. Et je le dis souvent, mais ça participe de notre bien vivre ensemble. Et je crois que à l'époque où nous vivons en ce moment, les événements un petit peu dramatiques, on l'a encore vu hier, je crois que c'est important de retrouver cette qualité de vie dans nos villages. Voilà, la vraie vie, elle est là.
Voilà, absolument. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine.
Voilà, ok. Voilà, bah le rendez-vous est pris, monsieur Mémin. Alors, très brièvement, je vais vous donner quand même les différents vainqueurs hein, dans l'épreuve du marathon. Ah, c'est un fidèle, c'est un habitué, je crois qu'il a juste raté une seule édition. C'est Gaspard Van Bonne qui s'impose en 2h36 minutes et 23 secondes. Hein. Et la première féminine, c'est Clémence Mazori en 3h29 minutes et 5 secondes. Dans le semi-marathon, ça va vous intéresser, Christophe, c'est Chefira Anis qui l'a emporté en 1h15 minutes et 9 secondes. Il a gagné devant celui qui avait remporté la corrida de Rambouillet, donc Miloud Oubad, qui lui a réalisé le temps de 1h16 minutes et 42 secondes. La première féminine, c'est inhabituée, c'est Sandrine Evin de Rambouillet Sport, 1h34 minutes et 51 secondes. Vous avez fait combien, vous?
1h43.
Bah, c'est bien, c'est un très bon temps. Dans les 10 km, c'est Ilia Justin qui l'emporte de l'Aiglon du Lamantin. Oui, on est d'une Martinique, donc en 34 minutes. Et 39 secondes, c'est Claire Anthony pardon, qui termine première féminine en 42 minutes et 39 secondes. Et puis les Géolettes, eh ben, on va remporter que les Géolettes ESR 2 Camille l'emportent chez les féminines et les Géolaires ESR 3 Malcon l'emportent chez les masculins. 1h44-23 pour les féminines et 2h02 secondes pour les masculins. Voilà, allez, la pub, la musique et ensuite on va continuer à parler de scrim. On y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement L'Orée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie 5 place de la mairie au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry-Pontin.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Bah, je vous donne les dates des prochains grands rendez-vous. Le 10 février, ça sera le semi-marathon de Bullion, puis le traditionnel semi-marathon de Rambouillet le 17 mars. On aura aussi le 28 avril la Rambouillet Sport dans le parc du Château et les foulées cernésiennes le 16 juin. Et puis je vais vous donner aussi, tiens, le programme des courses à l'hippodrome de Rambouillet. On les a reçues en fin d'année. Donc la première réunion, ça commencera le dimanche 7 avril. Il y aura une réunion premium le jeudi 2 mai. Et ensuite, donc, les autres réunions seront le 12 mai, le 26 mai, le 16 juin et le 23 juin. On aura ensuite un petit surplus le 30 juin avec une réunion consacrée exclusivement à des courses de poney. Et ensuite, après les vacances, eh bien, on se retrouvera à l'hippodrome de Rambouillet le 1er septembre, le 15 septembre, et on finira le 29 septembre. Christophe, donc parmi les pratiquants que vous avez, c'est tous des jeunes de Rambouillet ou des moins jeunes ?
Alors non, on a des rambouillettins à peu près à 60%, il y en a 40% de licenciés qui ne sont pas des rambouillettins. Donc on touche beaucoup de petites communes autour de Rambouillet. Et on va même jusque dans le 28, parce qu'effectivement l'escrime dans le coin n'est pas très représenté. Entre Rambouillet et Chartres, il y a aucun club, donc on a des personnes du 28, et puis après je vous disais que toutes les communes autour de Rambouillet qui viennent pratiquer chez nous.
C'est vrai que c'est pas un sport où il y a énormément de clubs un peu partout. Si on va de l'autre côté vers l'Essonne, il y a Dourdan avec un très bon club de sabre.
De sabre,
il y a les Ulysses aussi. Hein,
voilà, et puis c'est un petit peu plus loin pour ceux qui habitent le coin. Et puis des fois, le sabre fait un petit peu peur parce que les coups ne sont pas portés de la même façon.
Alors on va en parler. Donc ceux qui viennent restent quand même malgré tout dans ce sport. Il y a un turnover.
Il y a un turnover, mais qui est très faible. On a quand même beaucoup de personnes qui restent. C'est ce qui nous a certainement permis aussi de progresser. Je vous rappelle, on a 10 ans d'existence et on est à 143 licenciés. Mais chaque année, on a progressé puisque pratiquement entre 70 et 80% des personnes restent. Donc ils y trouvent, j'imagine, ce qu'ils viennent chercher, à savoir une ambiance conviviale, porter un petit peu sur la compétition, mais c'est pas le but principal. L'important, c'est que chacun progresse à son niveau et puis que l'ambiance soit bonne et puis qu'on puisse un peu avoir une mixité entre les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde ensemble. Et puis,
donc ça fait une tranche d'âge assez, assez vaste.
Oui, on a des enfants de 5 ans et demi jusqu'à des personnes qui ont 60, 65 ans. Quoi.
Donc ça, c'est l'escrime loisir.
C'est escrime loisir, c'est essentiellement un club escrime loisir. Et puis quelques jeunes qui souhaitent faire de la compétition, on n'oblige personne. S'ils le souhaitent, on les accompagne. Comme je vous disais aujourd'hui, le maître d'armes les emmène à Trappes, il y a un challenge à Trappes, donc on est présent aussi pour ceux qui souhaitent faire de la compétition.
Alors votre vocation, c'est aussi d'être un club formateur.
Oui, voilà.
Mais avant tout, un club formateur.
Un club formateur au Fleuret, donc.
Alors on va en parler de ça, des spécialisations des clubs.
Donc on fait débuter les enfants, l'école d'escrime est au Fleuret, parce que c'est l'arme de convention, l'arme donc qui permet de bien appréhender la technique de l'escrime. Et puis ensuite, à partir de ado et puis adulte, là, on passe à l'épée, qui est une arme de duel, donc un petit peu plus simple. Donc tout de suite, on peut s'amuser un petit peu plus rapidement, puisque c'est le premier qui touche, on a le droit de toucher partout. C'est ce qui permet aussi de mettre un petit peu les adhérents et de les faire tirer à l'électrique. Donc on a investi de façon assez conséquente sur de l'appareillage électrique, parce que c'est pas donné, malheureusement, le matériel d'escrime. Et puis, ça leur permet d'être autonomes et de s'amuser beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est aussi une des clés pourquoi les personnes aussi restent au club, puisque elles peuvent venir se brancher, tirer avec de nombreux partenaires, et puis trouver un petit peu l'amusement nécessaire au sport.
Alors, il y a autant de filles que de garçons, parce que c'est un sport très pratiqué par les femmes.
Sport pratiqué par les femmes. Alors nous, on a à peu près 30% de féminines au club. Alors je sais pas du tout ce que ça représente par rapport à d'autres clubs, mais voilà, on a quand même.
Il y a peut-être qu'en boxe française où il y a à peu près une parité qui s'établit, oui.
D'accord. Et puis, mais du coup, au niveau des cours et des combats, les hommes et les femmes sont mélangés. Il n'y a pas de distinction et l'escrime permet cette mixité au niveau des.
Alors quand on rentre d'une façon générale dans un club d'escrime. Bon, vous, on fait du fleuret, on passe à l'épée après, mais on est obligé de se spécialiser. Après, on peut plus changer d'arme.
C'est difficile, c'est un petit peu comme pour faire le parallèle avec l'athlétisme. Si je fais après un semi, ça va pas. Oui, je cours de la même façon. Par contre, j'aurais pas du tout le même niveau et ça demande pas les mêmes performances physiques et techniques. Donc c'est deux sports différents, le sprint et le fond. En escrime, si je fais du fleuret, bien évidemment, je peux tirer à l'épée, au sabre, mais jamais à haut niveau. puisque bah, les règles sont un petit peu différentes et les qualités requises seront différentes.
Alors ceux qui ne connaissent pas trop, qui nous écoutent ce matin, on va parler des principales spécificités du fleuret, de l'épée et puis du sabre.
Alors le fleuret, c'est l'arme d'étude, c'est l'arme de convention, donc c'est l'arme qui à l'époque était l'arme qui permettait au maître d'armes de vous apprendre mm-hmm. à faire de l'escrime, donc mm-hmm. à faire les attaques, les parades, à vous défendre, à faire les parades. Donc c'est vraiment une arme d'étude, c'est pour ça qu'on touche principalement sur le devant du, mm-hmm. du ventre, et c'est là où on apprenait la technique.
D'accord, donc c'est l'arme la plus technique des trois.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Ensuite, on a l'épée, qui est l'arme mm-hmm. de duel. Donc quand à l'époque, ben, on prenait ouais. dans la figure et qu'on allait sur le pré...
Certains se rencontraient, régler ça par duel, oui.
Bah, la règle est très simple, on a le droit de toucher partout quand on est en duel. Hein. Et mm-hmm. puis bah, avec la pointe, le premier qui touchait, en général, blessait l'autre ou le mm-hmm. tuait, mm-hmm. et le combat s'arrêtait. Donc mm-hmm. l'épée, bah, la règle est très simple, le premier qui touche l'autre a le point, les petites lampes électriques ne permettent pas que l'autre vous touche si le temps entre les deux touches est trop long, et du coup vous avez le droit de toucher partout. Donc une arme très simple à comprendre et à pratiquer. Et ensuite vient le sabre, qui était l'arme des cavaliers. Donc, on était sur les chevaux. Et donc, c'est pour ça qu'au sabre, on aura touché seulement uniquement au-dessus de la ceinture, puisque les jambes étaient sur le cheval et qu'on n'allait pas taper sur le cheval. Et donc, on a le droit de toucher également au sabre avec le tranchant de la lame, puisque bah, la distance entre deux personnes qui étaient sur des chevaux était assez importante. Donc, on allait chercher l'autre avec le tranchant de la lame, ce qui explique un petit peu la spécificité du sabre par rapport aux deux autres. Voilà, c'est vraiment très historique par rapport...
Bien sûr. Donc, quelqu'un qui voudrait faire du sabre, il va sur Dourdan, où il y a Maître Palfi d'abord.
Exactement. Oui. Parce que nous, bah, du coup, on n'a pas de sabreur quand on a créé le club. Nous, on était... on était fleurettiste au départ, donc voilà, on n'a pas été vers le sabre, donc on reste vraiment en fleuret pour les enfants, et puis ensuite ado-adulte à l'épée.
Alors combien coûte une licence et une cotisation, et est-ce qu'il est encore possible de vous rejoindre? Est-ce qu'il y aurait des vocations ce matin après cette émission?
J'en serais le premier très, très heureux, mais il faudra mieux attendre la rentrée, parce que bah, déjà d'un point de vue pédagogique, pour quelqu'un qui commencerait au bout de 6 mois de pratique, ça serait pas faire de pouvoir le recevoir. Il faudrait qu'il commence avec d'autres personnes. Et puis on est assez complet au niveau des créneaux. Mm-hmm. Donc il faudra mieux attendre le mois de septembre prochain. La cotisation, elle commence à 235 € pour les enfants. Donc les prix sont un petit peu les prix qui sont pratiqués dans les autres associations sportives localement. Et puis ensuite, bah, nous on loue le matériel, c'est d'accord. pour éviter un petit peu aux personnes d'acheter du matériel, parce qu'une combinaison complète, masque et compagnie, on en est à plus de 300 €. Donc on a préféré au niveau du club se dire on va développer la pratique. Ouais. Donc c'est le club qui investit lourdement et qui permet de prêter, de louer le matériel aux adhérents afin qu'on ait un plus grand nombre qui puisse pratiquer l'escrime. Nous, c'est notre vision des choses, c'est que voilà, on puisse partager notre passion avec le plus grand nombre.
Ouais. Donc l'arme et l'équipement, ils sont loués.
Ils sont loués, voilà, prêtés, et puis on nous le rend à la fin d'année si vous continuez pas, ou on nous le rend parce que des fois les enfants en un an ils ont bien grandi, donc on leur change et puis ça leur permet aussi d'avoir un équipement à leur taille à chaque fois.
Parce que celui qui voudrait trouver une arme ou un équipement, c'est facile à trouver.
Non,
c'est pas évident dans les commerces de sport.
Il y a des commerces parce que l'escrime c'est un sport peu pratiqué malgré tout en France. Donc il y a quelques magasins qui sont à Paris, mais c'est tout. Sinon après, bon, c'est via Internet, mais bon, c'est très, très spécifique. On n'a pas ça dans les grandes surfaces. Mm-hmm. Donc non, nous on va de temps en temps à Paris pour aller acheter du matériel pour le donner à nos adhérents. Mais sinon, il vaut mieux passer par le maître d'armes pour acheter du matériel.
Oui. Comment se passe une séance d'entraînement? Comment se passe un créneau? Et d'abord, combien vous avez de créneaux d'entraînement dans la semaine?
Alors, on a des cours les lundis soir, mercredi après-midi, jeudi soir, vendredi soir et samedi matin.
Ah ouais.
Le cours dure 1 heure pour les enfants, un peu plus pour les adultes. Après, voilà, c'est un échauffement en commun, physique, un petit peu pour solliciter les membres supérieurs et puis les jambes. Ensuite, un petit travail technique. Et en général, on finit par des assauts, donc soit libres où ils peuvent tirer ensemble et puis faire des matchs. Ou alors des assauts un petit peu pédagogiques où on va un petit peu analyser pour les aider à progresser en situation de combat.
Mmh. Il y a des éléments plus doués au départ que d'autres. On sent qu'au départ, il y a il y en a qui ont un peu plus la sensibilité.
Voilà, on sent de toute façon, je pense, quelle que soit la discipline, on a des enfants. Et on se dit, s'ils sont là en escrime, tout de suite qu'ils ont la faculté d'être bien dans leur corps, d'être bien en motricité, je pense qu'ils seraient à l'escrime ou dans d'autres sports où qu'on les mette. Ils ont des qualités, ils chopent vite le truc. Donc c'est vrai que ceux-là, ils comprennent très très vite. Et puis il y en a d'autres où c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, l'idée, c'est de faire progresser tout le monde là où il doit aller, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis, naturellement, Christophe, ensuite, on peut faire de la compétition. Vous accompagnez ces jeunes à la compétition. Vous êtes très présent, vous les guidez, vous les encadrez.
Tout à fait. Moi, ayant été en équipe de France, ayant été à très haut niveau, bien évidemment, on est là pour répondre. Si on avait quelqu'un qui était doué et qui souhaitait faire de la compétition, bien évidemment, on l'accompagnerait. Donc, on essaye sur des jeunes de les accompagner. Jusqu'à présent, là, au bout de 10 ans, on n'a jamais eu de compétiteurs. Mais bon, si un jour on a la perle rare, bien évidemment, on lui donnera toutes les chances pour
aller dans un club, quoi.
Après, à un moment donné, il faudra qu'on passe la main parce qu'on n'a pas les installations suffisantes, mais on le montrera le plus haut possible et puis on passera le relais.
Mm-hmm. Ou dans des clubs des Yvelines ou même d'Île-de-France.
Oui, ou même sur Paris. Enfin,
oui, sur Paris, carrément.
On verra bien comment ça se projette.
Alors, on va rappeler où se trouve cette salle d'escrime sur Rambouillet.
Alors, on est aidé par la mairie qui nous prête différentes salles de sport, mais on n'a pas de salle à proprement dit et un endroit précis. Le lundi, on est au Vieux Moulin.
D'accord.
Lundi soir. Le mercredi, on est au gymnase Dreyfus. Le jeudi soir, on est au gymnase Béziel dans le lycée Sainte-Thérèse. Le vendredi, on retourne à Dreyfus. Et le samedi matin, on est à Béziel. Donc, voilà.
C'est pas pénalisant tout ça?
C'est compliqué parce que le matériel, les pistes, on a 8 pistes d'escrime à trimballer à chaque fois à gauche à droite, donc c'est compliqué parce que ça pèse un petit peu lourd, puis ça prend de la place dans la voiture. Mais c'est pénalisant. Je pense qu'effectivement, on est 143 licenciés, on pourrait être plus si on avait des créneaux fixes et une salle fixe. Donc on discute avec la mairie pour voir si dans un avenir proche, on pourrait avoir une salle dédiée. Y a des projets qui... Oui. Sont évoqués,
alors, vous faites le tournoi des fines lames. Est-ce qu'il est prévu peut-être un jour d'autres épreuves, un championnat régional, un championnat départemental?
Alors oui, parce que bon, ça fait 3 ans et on voulait créer notre propre tournoi pour répondre à une demande. On commence à bien se débrouiller, à avoir nos petites habitudes. C'est la 3e année qu'on l'a organisé cette année. Mmh. Et effectivement, on pense organiser un tournoi un peu plus important. Puisque le département et puis la Ligue de Versailles a besoin d'endroits pour organiser des compétitions de jeunes. Donc je pense que d'ici un an ou deux, on organisera une épreuve pour la Ligue. Donc là, ça voudra dire 150 personnes. Donc ça peut être sympa.
Ça peut être fait au Racinet, ça peut être fait à De Vivonne, ça peut être fait des gymnases comme ça qui peuvent accueillir du monde.
Hein. Exactement.
Voilà. Ouais. Parce que le public d'escrime, il est comment? Il est silencieux, il est calme,
il est calme, ça va, il est discipliné.
Ouais.
Il est discipliné, mais c'est essentiellement des parents qui viennent voir et puis un peu des fois quelques curieux, mais non, ça reste.
Alors justement, quand se passe une compétition, il y a peu de contestations, ça va, on respecte assez bien les différents arbitres.
Alors oui.
Oui.
Je pensais à quelque chose hier où.
Oui.
Où mon fils fait du foot à Rambouillet.
Oui,
C'était justement, j'étais un petit peu. Je sais pas.
Pourquoi il a contesté l'arbitre, non?
Non, non, pas lui. Non. Mais bon, c'était un match du 13 ou du 14. Oui, effectivement, le foot, ça reste très, très particulier. Voilà, parce que c'est l'équipe adverse, c'est l'entraîneur. Enfin, moi, je pense que. Certains éducateurs qui pourraient se remettre en question, mais bon, ça reste compliqué. En escrime, non, ça va. L'arbitre, c'est quand même encore lui le maître du jeu. Et puis, même s'il se trompe, au moins, on respecte la décision. Mm-hmm. On peut ne pas être d'accord, mais c'est important de respecter tout ça.
Alors, vos maîtres d'armes aussi, ils sont combien?
Alors, il y a une maître d'armes qui gère ça. Et puis moi, je lui donne un coup de main le samedi matin, puisque le samedi, on a pratiquement 70 personnes sur la matinée.
Voilà.
Et finalement, les parents aiment bien mettre leurs enfants le samedi matin, ça leur permet de faire les courses. Et puis du coup, dès 9h du matin, je pensais que ça serait contraignant, mais finalement, les petits, ils ont 6 ans, entre 6 et 8 ans, c'est le cours de 9h du matin, c'est les 6-8 ans, et on a 20 gamins à 9h du matin.
Ça fait pratique pour des parents, c'est sûr.
Et puis après, on a les adultes, mais non, on a 70 personnes le samedi, donc je donne un petit coup de main le samedi, parce que je suis maître d'armes aussi, et sinon, c'est une maître d'armes qui s'occupe de l'ensemble du club.
Donc vous n'êtes que deux pour l'instant, maître d'armes.
On n'est que deux, oui.
D'accord.
Après, voilà, c'est, financièrement, alors, on n'aurait pas les moyens de...
Alors, justement, pour ceux qui seraient intéressés, il y a des métiers dans l'escrime, et maître d'armes, c'en est un.
C'en est un, tout à fait.
Donc, il faut des diplômes particuliers, il y a une filière à suivre, je suppose.
Il y a une filière à suivre, bien évidemment, il y a un tronc commun, et puis c'est un diplôme d'État dans tous les autres sports.
Comme les brevets d'éducateur sportif, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc, il y a une formation à faire, avec ensuite la partie spécifique escrime. Et ben la formation, le tronc commun, lui, il est général avec tous les autres sports.
Est-ce qu'il y a un profil type de l'escrimeur ou de l'escrimeuse? Archétype grand, longiligne, c'est mieux?
Je vais vous dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ça dépend un petit peu de l'arme aussi pratiquée, puisque en fonction des qualités physiques requises, vous allez avoir des morphologies et des typologies d'athlètes suivant l'arme choisie.
Oui.
Donc en général à l'épée, plus vous êtes grand mieux c'est, puisque on le disait tout à l'heure, c'est le premier qui touche. Donc c'est vrai que la taille et puis l'allonge avec le bras vous permet de toucher plus facilement l'adversaire qui sera plus petit que vous. Le sabre, vu que c'est des efforts très 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 courts sur des petites descentes, donc ils sont assez physiques, assez carrés. Et puis le fleurettiste est un petit peu plus il a un physique un peu plus classique, on va dire.
Alors, malgré la spécialisation de vos clubs au niveau d'armes, est-ce que vous pouvez à un moment conseiller, aiguiller quelqu'un de s'orienter vers une autre arme? Dire, voilà, toi t'es plus fait pour le sabre, ton gabarit, vas-y, trouve un club de sabre.
Oui, parce qu'effectivement, quand on voit par rapport à l'expertise qu'on peut avoir et comment l'enfant va exprimer son escrime, s'il est très défensif, si on peut dire, effectivement, on va vers l'épée. S'il est explosif, on peut lui dire le sabre et lui conseiller d'autres clubs éventuellement s'il avait besoin de se perfectionner.
Et entre clubs, vous connaissez, vous avez de bons rapports ou est-ce que c'est un peu chacun pour soi, c'est-à-dire le fleuret pour le fleuret, l'épée pour l'épée, on parlait de la course à pied mais les sprinters ne connaissent pas forcément les coureurs de fond.
Alors c'est vrai que moi j'étais à l'INSEP pendant plus de 10 ans en équipe de France, donc il y a toujours un jeu de se charrier entre armes parce qu'effectivement chacun défend un petit peu sa chapelle et on se taquine. Mais ça, on reste escrimeur avant tout. Après, non, entre clubs, l'ambiance est bonne, même si c'est des clubs d'armes différentes. Mais en général, c'est toujours d'anciens escrimeurs qui sont devenus maîtres d'armes. Donc, on se connaît tous depuis. C'est un peu l'escrime, on est 60 000 licenciés, tout mouillé. Donc, ça reste un petit sport et un petit milieu où tout le monde se connaît. Donc, ça reste une bonne ambiance malgré tout.
Et puis, naturellement, y a le côté un peu donc dépassement de soi. Et ça, c'est le mental qui fait la différence. C'est un sport très mental, quand même, l'escrime. Hein. On l'a souvent vu. Alors, vous allez me dire comme tous les sports de haut niveau, mais enfin, bon.
Oui, mais il ne faut pas oublier que l'escrime, c'est un sport de combat malgré tout. Donc, c'est ce qu'on essaye de rappeler. C'est ce que nous, on a quand on est à haut niveau. C'est un sport de combat malgré tout. Donc, effectivement, il y a plein de qualité, mais ça reste, on est là pour toucher l'autre sans se faire toucher et ça passe par une agressivité qu'il faut avoir pour pouvoir s'imposer.
Alors justement, l'agressivité saine. On l'acquiert comment? Parce que c'est ça la difficulté, il faut être dedans, il faut être agressif sans perdre ses moyens. C'est là que le rôle, j'allais dire, d'un maître d'armes, d'un coach, d'un président est important. Vous parlez beaucoup, vous, à ceux qui vont rentrer sur la piste?
Ah non, quelques petits mots-clés, on n'est pas là pour faire des grands discours, mais c'est vrai que de toute façon, depuis l'initiation et quand vous commencez l'escrime, les enfants, on fait vraiment de l'escrime, c'est-à-dire avec un fleuret qui est en métal, qui peut casser, qui peut percer un œil, L'escrime n'est pas un sport dangereux.
Oui, il faut le dire aux parents, ça.
C'est pas du tout dangereux, c'est beaucoup moins dangereux que le foot, par exemple, où vous faites beaucoup plus d'entorses, du genou, de la cheville.
Il y a très peu
d'escrime. L'escrime, on prend des fois quelques coups, donc c'est vrai que les enfants, ils sont pas habitués parce que l'arme est en métal. Par contre, c'est pas dangereux parce que justement, on a des équipements comme le masque et les tenues qui vous protègent. Mais aussi, dès le départ, on leur dit bien que c'est un sport de combat, mais il y a des règles à respecter. Et donc les enfants sont formatés dès le départ à ce respect des règles, ce respect du maître d'armes, de l'arbitre, et on fait pas n'importe quoi parce que on a une vingtaine d'enfants, je vous disais tout à l'heure, de 6 ans avec une arme en fer dans le truc, on n'est pas là pour, on fait pas Zorro, il y a quand même des choses à respecter. Donc en général ça se passe bien parce que dès le départ ils sont quand même initiés à la sécurité et au respect du maître
d'armes. Il arrive qu'il y ait des déclassements, Non, très peu.
Non, bah après voilà, il peut y avoir des personnes qui sont pas contents, qui balancent leurs affaires dans les tribunes quand ils ont perdu. Mais ça, je pense que quel que soit le sport, c'est des réactions.
Ça a des points communs avec les arts martiaux, hein, là-dessus, le respect de l'adversaire, du maître d'armes, de l'arbitre, même.
Ouais,
si
mais c'est important. Et même on voit des parents qui viennent nous dire, bah comment vous faites? Vous avez 20 gamins devant vous, on n'entend pas un bruit, ça respecte. Et puis en général, les parents sont assez. Assez preneurs et assez fans de voir que ben voilà, il y a un respect à avoir vis-à-vis du maître d'armes. Alors, c'est vrai qu'on s'appelle maître et compagnie, mais ça peut faire sourire, mais ça permet aussi de tenir tout le monde. Et puis il y a en escrime, il y a un respect, et je trouve que c'est pas plus mal.
Oui, alors cette agressivité, donc elle s'acquiert au fur et à mesure, et je l'ai dit, les entraîneurs sont là pour emmener dans les meilleures conditions le tireur ou la tireuse.
Complètement, voilà. Ouais. Bah après
les mots justes, il faut que les parents s'effacent quand même. Hein.
Alors les parents, nous, je veux pas avoir de parents. Voilà. Parce qu'encore une fois, je vais pas faire parler avec le foot. Nous, les parents, ils ont rien à dire parce que déjà, ils sont pas techniciens, donc ils vont pas se permettre de parler et de nous dire ce qu'il faut qu'on dise aux enfants. Et puis ensuite, les parents, ils ont leur rôle de parent qui est important, mais dans les tribunes, le sportif, il est avec le maître d'armes et ça se joue entre eux. C'est autre chose, c'est important, mais c'est autre chose. Et voilà. Et les parents, ils n'ont rien à dire sur le côté sportif parce que, pour une fois, bon, l'escrime, c'est vrai que tout le monde au foot, tout le monde donne son avis, et même avec l'équipe de France, on est tous sélectionneurs. Mais voilà, j'entends beaucoup des fois au foot des parents qui parlent et compagnie, ou qui donnent des conseils. Là, en escrime, non, c'est les parents dans les
tribunes. C'est ça que je parlais du décalage, vous qui travaillez dans le milieu pro du foot.
Bien sûr.
Et qui avez été escrimeur de haut niveau. Bon, on retrouve des points communs. Hein,
bien sûr.
De niveau, on l'est. Mmh. Mais après, l'environnement, c'est complètement différent.
C'est différent. Donc nous, les parents restent en tribune et accompagnent les enfants et les jouent leur rôle de parents, mais pas d'entraîneurs.
Très bien. Allez, la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Inutile en fut-il le dimanche, le second immobile aux aiguilles qui penchent, j'oublierai ton nom. De quatre nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture en meubles à installer, j'oublierai ton nom. De la piste suante à la dernière danse, de quelques nuits de feu aux matinées de cendre, de cette agitation. Du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. De la main d'un ami au baiser d'une bouche, de ceux qui sauront lire que le mal a fait mouche, j'oublierai ton nom. J'oublierai ton nom.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, et naturellement, cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast, hein, très rapidement dans la journée, comme toutes celles de l'année 2018, et puis également le Tribune Foot de la semaine dernière. Il y a une épreuve de Coupe du Monde aujourd'hui à Paris, qui va être montrée sur l'équipe. On a considérablement amélioré, Christophe, la couverture.
Oui, parce qu'effectivement, nous, sport, l'escrime, on souhaite avoir le plus d'adhérents et on essaie de se développer. Donc, il y a un gros effort qui a été fait par la Fédération internationale pour rendre l'escrime un petit peu plus télégénique, donc avec plus de gros plans et de ralentis un petit peu aussi sur les actions et de gros plans sur les visages quand les tireurs enlèvent le masque, puisque les règles sont un petit peu difficiles à comprendre. Donc, on essaye de communiquer notre passion du sport et par les émotions que peuvent avoir les tireurs pendant des matchs. On a toujours des émotions assez visuelles, donc c'est par ça aussi qu'on peut arriver à partager notre sport.
Dernier petit mot, le matériel, il n'a pas beaucoup changé, il n'a pas beaucoup évolué.
Non, le matériel n'a pas beaucoup évolué. C'est vrai que sur les Coupes du Monde ou Jeux Olympiques, maintenant on a du matériel qui est sans fil pour les phases finales. Bon, je pense pas que ça apporte grand chose au niveau télégénique. Bon, c'est un petit peu plus pratique pour les tireurs. Mmh. Mais bon, ça reste un sport quand même relativement peu pratiqué, donc difficilement de réaliser des gros investissements pour développer le matériel, des améliorations.
Eh bien, bah, merci Christophe d'avoir été notre invité. Hein. Je l'ai dit, cette émission, on pourra la réécouter sur notre site internet complètement relooké. Vous allez voir, il est bien dans l'air de 2019. Donc voilà, on pourra la réécouter très rapidement. Merci, à très bientôt.
Merci.
Pour l'escrime et pour le sport en général.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités pour nos 10 ans donc, de création du club.
Voilà, merci à Jean-Pierre d'avoir été ce matin donc, aux manettes. Hein. On a eu un petit... notre ami Bastien va nous souhaiter bon établissement. Il a chopé donc la grippe, mais ça va s'améliorer. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Salut.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, selon le ministère de l'Intérieur, 84 000 personnes ont défilé hier lors de l'acte 9 des Gilets jaunes. À trois jours du débat national censé apaiser la colère, la mobilisation des Gilets jaunes est en hausse. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 50 000 personnes, même si quelques violences ont été à déplorer dans plusieurs villes comme Bourges, Paris ou encore Bordeaux. Celles-ci ont été moins nombreuses. 244 personnes ont été interpellées et 201 placées en garde à vue. À Paris, lourd bilan suite à l'explosion d'un immeuble rue de Trévise dans le 9e arrondissement. 3 morts, 2 pompiers et une touriste espagnole et une 50...